Romains, chapitre 14, versets 11 et 12. Car il est écrit, « Aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu, reconnaîtra son honneur et le louera. » Or, tout genou veut dire que même ceux qui ne croient pas maintenant s'agenouilleront un jour. Et ce sera un moment passionnant, n'est-ce pas? Eh bien, du moins, il le sera pour nous. Je ne sais pas à quel point ce sera passionnant pour les gens qui ont passé toute leur vie à ne pas croire. Ou d'ailleurs, même les gens qui disent qu'ils croient, mais qui ont passé leur vie à faire des compromis. Regardons le verset d'après. Ainsi, chacun de nous rendra compte pour lui-même, donnera une réponse en ce qui concerne le jugement à Dieu. Maintenant, regardons ce verset sérieusement pour une minute. Aussi nombreuses que soient nos années ici-bas, nos distractions et aussi grandes qu'elles soient, le jour viendra où chacun de nous comparaîtra devant Dieu et rendra compte de sa vie. Donc, si vous croyez que c'est dur de temps en temps de tenir fermement sa foi et de rester croyant dans le monde où l'on vit aujourd'hui, vous serez content quand ce jour viendra et que vous n'avez aucune raison d'avoir honte. Tous ceux qui croient ne viennent point en jugement, dit la Bible dans Jean chapitre 3, verset 18. Tous ceux qui croient. Je ne crois même pas que les choses pour lesquelles nous rendrons compte à Dieu comme croyants seront nécessairement, irai-je au ciel ou en enfer? Je crois que ce sera en grande partie quelque chose comme « Qu'avez-vous fait de votre temps? Qu'avez-vous fait de votre argent? Comment avez-vous traité les gens? Et avez-vous porté du bon fruit dans votre vie? » Tout le monde aujourd'hui est occupé, 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 occupé. Si je vous disais « Êtes-vous occupé ?», la plupart d'entre vous diraient oui. Si je vous disais « Êtes-vous trop occupé ?», la plupart d'entre vous diraient oui. Mais vous savez, Dieu ne nous demande jamais d'être occupé. Il nous demande de porter du fruit. J'ai dit que Dieu ne nous demande jamais d'être occupé. Et malheureusement, parfois, que nous devenons tellement occupés, et tout ce que nous faisons, c'est de laisser notre programme surchargé nous frustrer, à tel point que nous finissons par ne pas avoir aucun bon fruit dans nos vies. Donc, je veux que ce message soit un cela, c'est-à-dire une pause, et que vous y pensiez calmement. Je veux que ce message soit un moment de cela pour nous, dans cette conférence ce week-end, au moment où nous démarrons. Un jour, tout genou fléchira, toute langue rendra gloire, et tout homme comparaîtra devant Dieu et rendra compte, non pas de quelqu'un d'autre, mais de lui-même, devant Dieu. Et je veux m'assurer que vous qui me regardez à la télé, quel que soit le pays où vous vivez, quelle que soit la langue que vous parlez, si vous écoutez ce message maintenant, et surtout si vous êtes quelqu'un qui ne s'est pas encore engagé à recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur, à aimer Dieu de tout votre cœur, je veux que vous sachiez maintenant que le temps viendra où vous comparaîtrez devant Dieu pour rendre compte de votre vie. Et bien que ce soit une pensée qui fait réfléchir, et peut-être à laquelle nous aimerions mieux ne pas penser, c'est une chose à laquelle nous devons penser, car ce jour-là viendra. Et si je ne partage pas ça avec vous, je manquerai à mon devoir devant Dieu. Et quand je comparaîtrai devant lui pour rendre compte, il me dira peut-être, eh bien, pourquoi tu n'as pas donné plus d'enseignements solides pour t'assurer que les gens ont vraiment compris que le jour viendra où ils rendront compte de leur vie devant moi. Donc, je crois que c'est quelque chose dont nous devons être entièrement conscients. Quelqu'un peut sourire et dire « Amen ». Amen. Maintenant, en fait, je veux vous parler ce soir d'éviter les pièges. Et dans Matthieu chapitre 24, le chapitre qui parle des signes des derniers temps, et combien d'entre vous croient que nous vivons dans les derniers temps? Eh bien, il est intéressant de noter que toutes les générations ont cru ça, y compris la génération de Paul. Mais si Paul croyait qu'il vivait dans les derniers jours, je crois vraiment que nous vivons dans la toute dernière partie des derniers jours. Donc, quel que soit le jour de son retour, nous sommes beaucoup plus proches que Paul ne l'était. Et Paul demandait aux gens de vivre prudemment, de vivre avec pondération et sérieusement, et non pas comme une bande d'évaporés qui croient que demain ne viendra jamais parce que demain viendra. Et il leur demandait de faire attention à leur comportement et d'être des lumières dans un monde obscur. Et je ne crois pas que nous nous rendions compte parfois comme croyants au Christ. La Bible dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Eh bien, vous savez que comme croyants, vous êtes l'espérance de la gloire de Dieu. Allez, comprenez ça. J'ai dit que vous êtes l'espérance de Dieu pour avoir la gloire. Nous, les croyants à Jésus-Christ dans le monde entier, nous sommes les flambeaux. Nous sommes censés l'être dans un endroit obscur. Nous sommes le sel de la terre. Les croyants représentant Dieu sont ceux qui donnent la saveur à la vie. Sans Dieu, il n'y a pas de saveur. Tout est fade et morne et ennuyeux. Et c'est une pensée qui fait réfléchir comme quoi, non seulement le Christ en moi est l'espérance de ma gloire, mais il est encore l'espérance de la gloire qu'il mérite lui-même. Un autre genre de pensée qui fait réfléchir. Donc Jésus a dit, il a donné les signes des derniers jours. Et une des choses qu'il a dites était que la tromperie allait être grande dans les derniers jours. Il a dit, prenez garde que personne ne vous égare. Il nous a donné une responsabilité. Eh bien ça alors, j'espère ne jamais être trompé. J'aimerais ne jamais être trompé. Non, nous ne devons pas avoir ce genre d'attitude passive. Une attitude passive est une porte ouverte à Satan pour entrer et détruire nos vies. Nous devons être actifs. Nous devons être agressifs. Nous devons rester informés. Et la tromperie est une chose horrible, 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 et il y en a tellement. La tromperie veut dire que nous croyons un mensonge. D'une façon ou d'une autre, Satan nous a convaincus de quelque chose qui n'est pas vrai, mais si nous le croyons, cela devient vrai pour nous. Et je me permets de dire, et s'il vous plaît, ne vous offensez pas quand je dis ça, mais il est possible que presque tout le monde dans ce bâtiment, je dis toujours presque tout le monde, car si quelqu'un veut s'en offenser, il peut penser qu'il est celui dont je ne parle pas. Donc je me permets de dire que presque tout le monde dans le bâtiment est probablement trompé sur un certain plan de sa vie en ce moment, y compris moi. C'est quelque chose que vous pouvez croire qu'il est vrai. Donc pour vous, c'est devenu votre réalité, bien que ce ne soit pas du tout vrai. Vous pensez peut-être que vous avez fait quelque chose d'impardonnable, mais ce n'est pas vrai. Cependant, si vous le croyez, vous ne recevrez jamais le pardon qui vous a déjà été donné, car nous recevons tout par la foi. Donc si Satan peut nous faire croire le mensonge, nous recevrons constamment de lui plutôt que de recevoir de Dieu, et nous nous y perdrons et nous ne saurons même pas ce qui ne va pas chez nous. Si vous croyez que vous n'êtes pas aimé, si vous vous attendez à être rejeté, c'est ce qui va vous arriver. Vous avez ouvert la porte à l'ennemi et il entrera et détruira vos vies. La seule solution de la tromperie est, devinez quoi, la vérité. Je ne suis pas sûre que nous comprenons à quel point ce livre est précieux. J'aime porter ce livre devant le monde entier. Et j'aime penser aux millions de gens, peut-être en ce moment, qui regardent ce merveilleux livre. Des gens en Afrique, des gens en Inde, des gens en Asie, des gens en Europe, des gens dans le monde entier, les gens dans la région inexploitée de la jungle amazonienne, des gens dans les cabanes. Et je veux juste vous dire, ce livre est l'espérance pour le monde entier, la parole de Dieu. Jésus a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Alléluia! Quelle chose géniale! C'était un des premiers versets que Dieu m'a fait comprendre en 1976, quand je suis devenue une chrétienne sérieuse. Je dis toujours « quand je suis devenue une chrétienne sérieuse », car j'étais chrétienne longtemps avant de devenir une chrétienne sérieuse. Et je crois que je savais assez sur Jésus-Christ Je comprenais le salut par la grâce. Je croyais vraiment que Jésus est mort pour mes péchés. Et je crois vraiment que si j'étais restée dans cette condition, je serais allée au ciel à ma mort. Mais j'aime toujours le dire comme ça. J'avais assez de Christ pour rester hors d'enfer, mais pas assez pour marcher dans la victoire. Donc laissez-moi vous demander, combien de Jésus voulez-vous dans votre vie? Voulez-vous assez pour l'échapper belle tous les jours et avec bon espoir vous faufiler au ciel par la porte de derrière? Ou voulez-vous vraiment être une lumière dans un monde obscur? Voulez-vous vraiment être utilisé? Voulez-vous porter du fruit? Voulez-vous être quelqu'un dont Dieu peut être fier? Vous savez ce que cela veut dire? Il y a deux chemins que nous pouvons prendre comme croyants, le chemin étroit et le chemin spacieux. Le chemin étroit mène à la vie. Le chemin spacieux mène toujours à la perdition. Or, c'est plus facile de rester sur le chemin spacieux, évidemment. Il y a là beaucoup d'espace pour vous et pour tous vos bagages charnels et tout, vous savez. Prenez le chemin étroit et il y a quelques trucs qui doivent s'en aller parce qu'il n'y a pas de la place pour cela. C'est si important, je crois vraiment que c'est si important que nous commencions à examiner sérieusement la façon dont nous vivons et ce que nous disons au monde et ce que l'Église dit au monde. Et nous devons, chacun de nous, nous assurer que nous faisons tout notre possible pour glorifier Dieu par nos vies tous les jours. Amen. Je ne sais pas trop pourquoi Dieu a choisi cet endroit pour que j'y prêche ce message. La dernière ville où j'étais, ils ont eu l'occasion d'écouter tout le week-end sur l'amour de Dieu, et la grâce de Dieu, et la miséricorde de Dieu, et le pardon de Dieu, et que Dieu les changera, et qu'ils ne devraient pas s'embarquer dans les œuvres de la chair. Non, mais j'ai commencé cette conférence-là, j'ai dit, dans ce message, il ne s'agit que de vous. Il en va de même pour ce message aussi, mais là, il s'agit de la façon de se débarrasser de vous. Ce week-end, nous allons dire adieu à vous. Adieu, adieu. Oh, mais la joie va s'accroître et la paix va se multiplier. Vous savez, à la fin de la Genèse 3, ou bien au début de la Genèse 3, le premier livre de la Bible, Satan avait déjà réussi à tromper Ève. Deux chapitres et une partie d'un autre, c'est le temps que ça a pris. Donc je me demande combien de tromperies il y a aujourd'hui après qu'il ait eu tous ces milliers et milliers, multipliés d'années pour travailler sur les gens. Nous croyons beaucoup de choses erronées sur Dieu. Beaucoup de gens croient que Dieu est la source de leurs problèmes. Eh bien Dieu, pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi as-tu laissé ceci m'arriver? Ce n'est pas vrai. Mais vous n'allez jamais savoir la vérité sur Dieu, à moins que vous ne connaissiez son caractère, par sa parole. Eh bien, j'ai essayé de lire la Bible, Joyce, et je ne peux pas la comprendre. Non, 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 non. D'abord, je ne crois pas que vous puissiez lire la Bible et la comprendre, à moins que vous ne receviez Christ par la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il va vous donner la révélation. Mais vous pouvez commencer. Et comme vous commencez à lire, Dieu remplira votre vie et vous éclairera. Mais il y a trop de traductions de la Bible aujourd'hui qui la rendent facile à comprendre. Nul ne peut dire qu'il ne peut pas comprendre la Bible. Vous savez avec quoi j'ai commencé quand j'avais 20 ans? Vous savez ce que j'ai lu? La Bible illustrée pour enfants. Et il n'y a pas de honte à ça. Si vous ne pouvez pas la comprendre d'aucune façon, allez donc chercher la Bible illustrée pour enfants. Ou ma petite série Le Zoo de tous les jours. Commencez avec cette série qui a été écrite pour les enfants de 4 ans, d'accord? Mais ne dites pas « je ne peux pas comprendre la Bible » car c'est une excuse pour ne jamais la lire. La Bible est le livre le plus merveilleux dans le monde entier. Apocalypse 12 nous enseigne que Satan est le trompeur, le grand trompeur qui ne fait que tromper. Le mot « tromperie », si vous l'étudiez dans le dictionnaire grec, veut dire « tricher »,« tromper »,« leurrer ». Ça veut dire donner une impression erronée. et j'ai pensé, brièvement, aux innombrables impressions erronées qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Qu'est-ce qui arriverait si toutes les apparences étaient retirées de toute chose? Je me demande quel genre de laideur nous aurions. Combien de publicités qui promettent d'être votre solution à tout et ne sont en fait que des impressions erronées? Combien de personnes donnent une impression erronée? Même combien de gens religieux donnent une impression erronée? Ils agissent très religieusement et pieusement quand ils sont avec leurs prétendus saints, religieux amis, mais à la maison, derrière les portes fermées, ils sont un cauchemar et une terreur. Mais quand ce jour viendra et que nous comparaîtrons devant Dieu pour rendre compte de nous-mêmes, je crois que nous nous tiendrons là, dépouillés de notre masque. Donc cela veut peut-être dire qu'il est temps de nous examiner sérieusement. Et vous savez, en 1976, quand Dieu a vraiment touché ma vie et que j'avais assez de religion et que je n'avais aucune victoire dans ma vie, c'est à ce moment-là que j'ai commencé une relation sérieuse avec Dieu. Une des premières choses qui me sont arrivées était que Dieu a commencé à m'amener à m'examiner sérieusement. Il était temps pour moi d'arrêter d'attribuer aux autres la responsabilité de mes problèmes, de prendre la responsabilité de ma vie et de mon comportement, d'arrêter d'attribuer à mon passé la responsabilité de mon mauvais comportement et de prendre la décision qu'il était temps de grandir. J'ai dit à Matt Redman ce soir, « Nous n'aurons peut-être pas beaucoup de rire ce week-end. » Il m'a dit, « Oh, tu dis toujours ça, mais tu finis par faire rire les gens. Vous savez quoi ?» J'espère que vous aimerez ce message, avec ou sans rire, mais dans les deux cas, nous devons avoir certains de ces messages plus forts, plus solides. Vous savez, Jésus disait de temps en temps, solennellement je vous dis, et ce n'est pas une si mauvaise chose non plus. En vérité, je vous dis, et je veux que nous nous assurions tous. Vous savez, je crois que ça paraît un peu bébête, mais parfois je plains en fait Dieu. Et je sais qu'il n'a pas besoin de notre pitié, mais je me surprends à m'excuser auprès de lui pour les autres. C'est comme, Dieu, je suis si désolée que tu aies à supporter les absurdités qui sont dans l'Église aujourd'hui et les absurdités qui sont dans le monde aujourd'hui. Et vous savez quoi? Le monde est un gâchis. C'est un gâchis et j'essaye de prêcher ce week-end sur la façon d'être pieux dans un monde impie. Nous devons bien nous garder d'être trompés et d'être dupés par tout le compromis qui est là. Nous ne devons pas continuer à transiger. Nous devons savoir ce que nous croyons et être préparés à tenir fermement à ce que nous croyons et pour ce que nous croyons, même si cela veut dire que nous devons souffrir pour cela parfois. Et la souffrance n'est pas un mot très populaire dans l'Église des temps modernes. Non, mais vous risquez d'être lapidé si vous prêchez la souffrance. Mais Jésus a dit, il vaut mieux souffrir pour la justice que souffrir pour le péché. Amen. La tromperie veut dire astuce, appât, piège, embûche, errer du droit chemin. Écoutez maintenant cette définition. Elle vient du dictionnaire grec de la vigne. Le mot tromperie représente ceux qui trompent avec des mots vides et minimisent, écoutez ça maintenant, minimisent le vrai caractère du péché. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Vous voyez, le péché, nous n'appelons pas le péché péché désormais. Il est maintenant notre dépendance, notre esclavage, notre problème, notre complexe, la chose contre laquelle nous luttons, ou la chose la plus ridicule qu'il est maintenant devenu, c'est notre droit. C'est notre droit de faire des choses immorales. Eh bien, vous savez quoi? Dieu protégera votre droit d'aller en enfer si c'est ce que vous voulez. Non, mais la Bible dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort choisie. Oh oui, nous avons le libre arbitre. Eh bien, vous savez quoi? Dieu est d'une patience à toute épreuve. Et il est miséricordieux. Il est patient et il fait beaucoup d'efforts pour sauver les gens du péché dans son pardon et sa miséricorde. Et je crois vraiment que c'est ce qu'il essaye de faire en ce moment même, par ma bouche. Et évidemment, vous êtes tous ici et j'apprécie votre présence ici. Mais je m'adresse non seulement à vous ce soir, ou peut-être principalement à vous, mais encore à tous les gens dans le monde entier qui ont zappé à cette émission et qui croient que c'était par hasard. Et Dieu essaye de vous parler, il essaye de vous faire savoir combien il se soucie de vous et vous aime et qu'il a pour vous une vie bien meilleure que celle que vous vivez en ce moment. Peut-être que vous ne savez pas grand-chose sur Dieu et vous croyez que vous êtes hors de sa portée, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu a un long bras et il peut étendre le bras et vous soulever de votre fosse pour vous sauver. Mais le mot « se repentir » veut tout d'abord dire que nous devons regretter nos péchés, non pas nos oups, nos complexes, nos dépendances, nos esclavages, les choses contre lesquelles nous luttons, mais nous devons regretter nos péchés. Dieu, je suis un pécheur et je regrette tous mes péchés. Tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Mais tous peuvent être justifiés et rendus justes devant Dieu par le sang de Christ. Les promesses de Dieu sont pour tous. Nous pouvons tous redevenir tout nouveaux. Chacun d'entre nous. Eh bien, rappelons-nous que Jésus nous a dit que dans les derniers jours, la tromperie serait partout et que le seul moyen de ne pas être trompé est de savoir la vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Aussi, avoir une relation profonde, personnelle avec Dieu vous aidera à rester enraciné dans la vérité.